Chapitre 31. Ça n'était pas un mauvais rêve. Lysine ne se réveillerait pas un matin avec des oiseaux babillant dans le jardin pour lui signifier qu'elle venait de faire l'un des pires cauchemars de sa vie. Tout était réel. Alors, à peine rentrée chez elle au Ménil, elle prit une douche brûlante, comme si l'eau pouvait la purger des horreurs qu'elle avait vues. Après quelques minutes, elle s'assit dans le coin, contre le carrelage, le jet vigoureux lui fouettant la nuque. Le chemin de l'autre Lysine Barth s'était arrêté de la façon la plus brutale qui soit. On l'avait attachée en position christique, puis torturée à mort. On avait filmé son agonie dans les tréfonds d'un cachot sadomasochiste poisseux. Et vu l'état du cadavre, la mort remontait vraisemblablement à plusieurs semaines. Lysine avait déjà lu quelque part que parfois, grâce à de bonnes conditions d'aération, certains corps ne pourrissaient pas, mais séchaient naturellement comme des momies. Même s'il manquait des pièces au puzzle, elle devinait dans les grandes lignes ce qui avait pu se passer. Un jour, Meltzer avait été cambriolé et avait constaté le vol de la pellicule. Acte intentionnel ou malencontreux hasard, dans tous les cas, il était facile d'imaginer sa panique et celle de ses acolytes. Sans doute s'était-il attendu à voir débarquer la police, mais personne n'était venu. De son côté, l'autre Lysine avait mené ses investigations et remonté la piste de Meltzer, aidée par la fille aux cheveux violets. Avant de se rendre chez lui, en revanche, elle avait caché la bobine dans une boîte postale à Amiens sous un faux nom et mis Ariane en sécurité. Est-ce qu'elle l'avait affrontée? L'avait-elle fait chanter? Menacée? Dans le fond, peu importait car, malgré ses précautions, le piège s'était refermé sur elle. Elle avait fini à la cave, suppliciée. Ses tarés avaient sûrement essayé de la faire parler. Mais elle n'avait rien lâché et on l'avait tuée tandis que Meltzer, derrière sa caméra, réalisait probablement un nouveau snuff tout aussi monstrueux que le précédent. À leur tour, ces assassins avaient dû enquêter, découvrir qui elle prétendait être et tomber sur l'adresse du Ménil. Ils avaient alors visité sa maison sans y trouver la bande. Ces hypothèses tenaient la route, mais de nombreuses interrogations subsistaient. Où se tairait Meltzer? Pourquoi ne s'était-il pas débarrassé du corps? Et encore une fois, pourquoi cette femme l'avait-elle impliquée, elle, dans cette affaire sordide? Lysine sortit de la douche et observa son visage dans le miroir brisé. Elle ne voyait, en définitive, qu'une réponse plausible à sa dernière question. Elle connaissait son usurpatrice. Et si un lien fort les unissait toutes les deux? Une relation de confiance qui aurait pu pousser l'autre à lui confier le fruit de ses investigations? Peut-être sa mémoire lui jouait-elle encore des tours. Peut-être y avait-il un épisode du passé verrouillé et inaccessible au fond de son cerveau. En tout cas, elle en était convaincue, il existait forcément une explication rationnelle à tout ça. Dans le salon, elle se mit à aller et venir, pensive. Elle était coincée. Elle était entrée dans une propriété de façon illégale. Là-bas, elle était tombée sur un cadavre sans en alerter les autorités. Elle avait même laissé son ADN partout sur place. En définitive, plus le temps passait, plus les ennuis s'amoncelaient au-dessus de sa tête. Alors, parfaitement consciente qu'il était trop tard pour faire machine arrière, elle décida de continuer malgré les risques. Et ces risques étaient bel et bien réels. La mort rôdait dans son sillage. Lysine devait faire preuve de prudence. Elle copia le fichier de la clé USB sur son ordinateur portable, histoire d'en avoir une sauvegarde supplémentaire. Puis elle ajouta au contenu de cette clé les photos prises avec son téléphone ces derniers jours. Sur une feuille vierge, elle nota « Si vous ouvrez cette enveloppe et que vous lisez cette lettre, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. Vous trouverez, joint à ce courrier, un article concernant la disparition d'une certaine Romy. Sur la vidéo enregistrée sur la clé, vous la verrez se faire assassiner par une bande de dégénérés. L'auteur de ce film abominable est vraisemblablement Otmar Meltzer. Il habite au 1597 bis, quai de Champignol, à Saint-Maur-des-Fossés. Dans sa cave, vous découvrirez une autre de ses victimes. J'ignore son identité réelle, mais elle a usurpé la mienne. Son numéro de téléphone est le 06 XX 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 XX. Je regrette d'avoir gardé tout ceci pour moi, mais je devais aller au bout de ma quête. Lizine Bart. Ses poils se hérissèrent. C'était comme écrire sa propre nécrologie. D'une certaine façon, elle reproduisait au détail près les gestes de l'autre Lizine. En cas de malheur, elle léguait le soin à un successeur de faire éclater la vérité. Elle glissa la feuille ainsi que la clé USB et l'article de journal dans une enveloppe. Puis, après avoir noté dessus son nom et son adresse rouennaise, sortit la poster. De retour chez elle, elle s'installa devant son ordinateur portable et tapa « Otmar Mölzer » dans son navigateur. Les liens ne se bousculèrent pas, mais l'homme disposait néanmoins d'une page Wikipédia. Né en Autriche, il avait aujourd'hui 78 ans. Le portrait en encart montrait un individu photographié de trois quarts avec un cigare entre les doigts, solide, sourcils broussailleux et regard dur. Ses yeux aussi noirs que ses cheveux à l'évidence teintés donnaient l'impression de transpercer l'objectif. « Alors c'est toi, vieux salopard !» murmura Lizine. Le contributeur de la notice qualifiait Mölzer d'artiste contemporain et de cinéaste expérimental. Il avait étudié à l'Université des Arts Appliqués de Vienne à la fin des années 1950, puis, à peine diplômé, avait réalisé des « Actionen », des œuvres picturales plaçant le corps au centre du processus créatif. Dans « L'Action », l'artiste n'était pas seulement une main qui peignait, il devenait le pinceau qui se mouvait, tartiné de peinture, sur d'immenses toiles étalées au sol ou contre les murs. Cette philosophie témoignait d'une volonté forte et immédiate de rompre avec l'art traditionnel et bien-pensant, rupture déjà entamée par Jackson Pollock une décennie plus tôt par ce qu'il appelait l'action painting. Mölzer avait ensuite été membre et représentant actif du Wiener Actionismus, l'actionnisme viennois. Lizine n'en avait jamais entendu parler. Elle ouvrit un autre onglet et fouina sur le web. Il s'agissait d'un mouvement radical, indépendant, violent, né en opposition à l'attitude rétrograde de l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale. Parmi certains artistes, grondait en effet une colère née du fait d'appartenir à un peuple profondément xénophobe et antisémite, peuple qui avait permis à Hitler de purger la société des Juifs. Était né alors en eux le désir farouche de s'affranchir des conventions, des idéologies, et de transgresser, de la façon la plus incisive qui fût, les codes établis. Quitte à utiliser les corps nus comme support de leurs œuvres, et à remplacer la peinture par du sang, de la viande crue ou encore des excréments. Ils considéraient comme un devoir de balancer sans filtre les atrocités de leur réalité au visage des spectateurs. Lizine consulta également le site d'un certain « The Infinite Art », qui semblait être un fin connaisseur de Mölzer, tomba sur des photos en noir et blanc de quelques « Actionen » qui lui donnèrent envie de vomir. Vulgarité, souillure, humiliation. Sur l'un des clichés, l'artiste, alors jeune, était crucifié à même le sol, intégralement couvert d'entrailles animales. Il y en avait des dizaines de kilos. Sur un autre, il était à l'intérieur d'une vache éventrée et recousue. Seule sa tête dépassait à la place de celle de la bête. Il existait, d'après les explications de l'internaute, un message artistique puissant dans ses œuvres. Mais Lizine n'y voyait rien d'autre qu'une boucherie. Où était l'art là-dedans? Comment pouvait-on prétendre délivrer un message avec de telles horreurs? Elle nota d'ailleurs que Mölzer et ses congénères avaient eu, à de nombreuses reprises, des soucis avec la justice. Leurs performances publiques étaient souvent interrompues, on les emprisonnait quelques jours pour outrage, exhibitionnisme, atteinte aux mœurs. Puis ils recommençaient. De sorte qu'on avait parlé de ce mouvement dans tous les milieux artistiques du monde. Et que Mölzer était devenu une personnalité reconnue avant, finalement, de se détacher du mouvement viennois pour performer seul. D'après The Infinite Art, Mölzer s'était mis, à partir de là, à parcourir la planète en camping-car, vivant de petits cachets. Et au bout de plusieurs années, avait estimé que la perfection esthétique vers laquelle il tendait avec ses œuvres ne pouvait plus se faire en direct devant un public. Il avait alors choisi de s'exprimer par le biais de la pellicule. Filmer ses actionen de plus en plus controversés permettait non seulement d'atteindre cette fameuse perfection, la pellicule devenait une œuvre à part entière qu'il était possible de retoucher, déchirer, percer, mais également de conserver une trace de sa création une fois celle-ci terminée. Lizine prit une profonde inspiration. Elle était sidérée. Et surtout, il n'y avait plus le moindre doute. La bobine qu'elle avait en sa possession était bien le fruit du cerveau détraqué de Meltzer. La bande portait en elle, sur elle, la signature du monstre. Mais s'il se tenait derrière la caméra, qui avait agi? Qui était ce chef d'orchestre qui se cachait sous le masque de taureau? Envahie par mille questions, elle poursuivit néanmoins son éprouvante lecture. Découvrit qu'Otmar Meltzer, désormais coté sur le marché de l'art contemporain, s'était enrichi au fil du temps. Qu'il avait vécu dans plusieurs grandes capitales, Berlin, Amsterdam, New York, Londres, avant de s'installer à Paris à la fin des années 1990 avec un de ses modèles dont il était fou amoureux, un jeune Français qui était mort de la mucoviscidose en 2002. Et enfin, que cette disparition brutale avait anéanti l'Autrichien, le plongeant plus encore dans les ténèbres. C'est à ce moment que ses actionen avaient viré aux orgies. Depuis, l'artiste tournait en France, dans des lieux gardés secrets, pour éviter les problèmes avec les forces de l'ordre. Il connaissait de toute façon la loi sur le bout des doigts, si bien que ses œuvres, quoique monstrueuses, demeuraient parfaitement légales. Ce qui ne les empêchait pas de susciter l'ire de nombreuses associations, notamment les défenseurs des animaux, ni de soulever à chaque rétrospective de vigoureuses polémiques qui remettaient sur la table l'éternel débat sur les limites de l'art. L'art était-il un univers à part où la liberté d'expression pouvait tout permettre, tout représenter? Censurer la création revenait-il à porter atteinte à la démocratie et aux libertés individuelles? Lizine parcourut le reste de la page. Le dernier film officiel de Meltzer datait de 5 ans auparavant et s'intitulait Action 144, Der Flug des Schwans, l'envolée du cygne.
Et le sacrifice de Romy, comment tu l'as appelé? C'était quoi le message, putain d'enfoiré? Tu te prends pour un dieu? Tu crois que ton art débile te donne tous les droits?
Elle avait presque crié cette fois. Ce type lui répugnait. Dire qu'il approchait des 80 ans et qu'il était encore capable de réaliser ses horreurs. Même si elle n'en avait aucune envie, il fallait à tout prix qu'elle jette un œil aux autres vidéos de ce taré. Peut-être reconnaîtrait-elle parmi les participants les bourreaux de Romy. Les invités avec leurs masques de porc, l'homme à la tête de taureau. Ces gens faisaient forcément partie du cercle des intimes de Meltzer. On devait pouvoir les identifier. Sur le site, elle remarqua un lien « Média » sur lequel elle cliqua. Mais quelques lignes indiquaient que les captations des actionen de Meltzer avaient été retirées pour des raisons de droit d'auteur. Un mot avait cependant été laissé par The Infinite Art. N'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'onglet Contact si vous désirez davantage d'informations sur les films d'Otmar Meltzer ou tout autre renseignement. Lizine ne se fit pas prier et rédigea aussitôt un message demandant à l'administrateur de la recontacter. Elle était journaliste indépendante, elle creusait un sujet autour de l'art et de la violence pour un gros dossier et voulait axer la partie art contemporain sur le travail de l'artiste autrichien. Elle se glissait, en définitive, dans la peau de son usurpatrice. Après ça, elle quitta la page et poursuivit ses investigations. D'autres articles existaient sur Meltzer, mais moins fournis. Certains mentionnaient simplement la présence de l'artiste dans la programmation de festivals étrangers. Elle écuma aussi YouTube à la recherche des vidéos en question. Ne restaient que des liens morts. Visiblement, des gens veillaient au grain pour que ces enregistrements n'atteignent pas le grand public. Une notification lui signala l'arrivée d'un email. The Infinite Art n'avait pas tardé à lui répondre. Il se prénommait Robert Angier, acceptait de la rencontrer à Paris si ça lui convenait et lui communiquait son numéro. Par prudence, elle tapa son nom dans Google. D'après LinkedIn, le type était manager dans une boîte de conseil parisienne et se définissait comme un passionné d'art contemporain. La trentaine, costume cravate, l'allure impeccable. Il ne faisait nulle part mention de son site ni de son pseudo, sans doute afin de ne pas créer de passerelle entre son boulot et ses hobbies. Rassurée, Lizine l'appela dans la foulée avec son téléphone jetable, se présenta de nouveau et demanda. « Vous auriez la possibilité de me montrer quelques films de Meltzer ?»«
C'est faisable, oui. J'en possède une vingtaine sur ordinateur, dont des récents. Ces œuvres n'ont jamais été officiellement numérisées, mais certaines ont été piratées directement dans les festivals grâce à des caméras cachées ou des portables. De temps en temps, ça circule sur Internet. Faut juste être là au bon moment. Quand souhaitez-vous qu'on se voit ?»«
Aujourd'hui ?»
J'ai une bricole à terminer pour un client. 19h, ça vous irait? Je vous propose qu'on se retrouve au train bleu, gare de Lyon. Ce n'est pas loin de l'endroit où je travaille. Le lounge est sympa et calme. On se mettra dans un coin pour discuter.
Lizine nota les informations sur un morceau de papier. Elle avait déjà envie de le cuisiner, mais elle se contenta de valider l'heure et le lieu.
Parfait,
répliqua-t-il.
J'ai tout de même une exigence. Que vous ne citiez pas vos sources dans votre dossier. Ni mon nom ni mon pseudo ne devront apparaître, ok ?
Vous pouvez compter sur moi. Elle le remercia, raccrocha et se détendit enfin un peu. Jusqu'à ce que son regard se porte sur une photo de Meltzer qui avait le visage couvert de sang et fixait l'objectif d'un air dément, ses yeux grands ouverts, quasi exorbités et ses lèvres cousues avec du fil en nylon. Le cliché était tiré d'une action qui datait de 1967 et s'intitulait « Selbstverstümmelung 3 », Automutilation 3. Elle en frissonna tant l'homme ressemblait à un fou. La jeune femme éteignit son ordinateur et rabattit le capot d'un geste sec, comme si Meltzer allait jaillir de là et lui attraper le bras pour l'entraîner vers de sordides abysses, pourtant bien réels.